Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RTL. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie, salut aux curieux. On est ensemble évidemment jusqu'à 22h au programme. Ce soir, un voyage en train. De sa création au 19e siècle jusqu'au TGV et son record de vitesse, on traversera 150 ans d'histoire de France, mais sur les rails. Et puis, vous l'avez entendu, RTL bouge pour la planète et se mobilise jusqu'au sommet sur le climat en novembre prochain à Paris. Nous serons donc avec Géraldine Danon en direct d'Haïti pour évoquer, comme chaque semaine, la sauvegarde des océans.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Travailler 20 heures sur 24, être frappé, parfois violé par son patron, être privé de ses papiers d'identité et bien sûr de toute liberté. Ces conditions de travail sont celles des esclaves modernes. On vous raconte leur histoire ce soir avec Sébastien Bouillet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter. À vos côtés, Dimitri Silvieri. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de télévision et éditeur et vous êtes tous les deux spécialistes du Moyen-Orient. Vous avez enquêté dans les pays du Golfe Persique sur cette réalité du travail forcé. Alors évidemment, première question, quels sont les pays précisément qui pratiquent cet esclavage moderne?
Alors, pour commencer, je dirais que les pays les plus concernés sont essentiellement les pétromonarchies du Golfe Persique.
Alors, c'est quoi les pétromonarchies?
Alors, c'est-à-dire le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, bien évidemment, le Bahreïn ou encore Oman. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des pays comme la Mauritanie encore aujourd'hui qui ont ce type de pratique, mais aussi des pays d'Asie du Sud-Est, comme Singapour, par exemple. C'est vrai.
Ouais, et il faut aussi juste relativiser et dire qu'en France, ce genre de pratique existe également. Alors certes, c'est plus faible, mais ça existe aussi. Et il faut aussi spécifier que dans des pays comme la Mauritanie, la France ou le Qatar, ces pratiques sont interdites.
C'est interdit.
C'est interdit.
Et pourtant,
ça se passe.
Ça, on reviendra sur la législation, évidemment. Pourquoi ces pays du Golfe Persique ont autant besoin de main-d'œuvre?
Alors, je pense que premièrement, pour remettre un peu les choses dans le contexte, il faut dire que ce sont déjà des pays jeunes. La plupart de ces pays, ils ont vu le jour au début des années 70, à la fin en fait du protectorat anglais, en fait, quand ils ont commencé à avoir leur indépendance. Et en fait, on demande à ces pays de faire en quelques décennies ce qu'on a demandé à la France de faire en 2000 ans. Donc, premièrement, ils n'ont pas effectivement le savoir-faire et la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir justement arriver à ce type de développement. Mais ça va plus loin que ça, je dirais. C'est aussi une façon pour eux, notamment des pays comme le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, de faire venir des entreprises étrangères et ainsi créer des alliances. Mais aussi, ça leur permet d'exister, de se faire connaître et de rayonner au niveau international.
Ce sont des pays aussi peu peuplés et donc qui manquent de main-d'œuvre, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït.
Ouais, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment une course au développement. C'est vraiment...
C'est-à-dire c'est une pression qui se met eux-mêmes.
Oui, tout à fait.
Et ils viennent d'où ces travailleurs qui débarquent dans ces pays du Golfe?
Énormément d'entre eux viennent d'Asie, du Népal, en grande partie pour tout ce qui concerne les chantiers, mais aussi des Indiens, beaucoup de Philippins. Il y a aussi des Occidentaux. Mmh. Qui sont généralement à la tête d'entreprise ou qui ont les postes à responsabilité ou d'autres pays arabes qui voilà, c'est un système de caste au Qatar, hein, notamment pour ne parler que du Qatar, mais également aux Émirats, qui fait qu'en fait il y a un peu un poste, une nationalité.
Parce que Sidonie, en ouvrant cette interview, parlait du cas de jeunes femmes qui se retrouvent esclaves, parfois violées par leur patron, etc. Là, on a commencé par la généralité, en fait, la généralité du marché de l'emploi dans ces pays. Ça veut dire que tous ceux qui viennent travailler dans ces pays se retrouvent pas forcément en situation d'esclavage. Il faut bien comprendre ça.
Exactement. Exactement. Il y a beaucoup. Alors il y a des problèmes. Hein. Il y a quelques problèmes aussi dont sont victimes des personnes qui ont des postes à responsabilité. Des Français. Il y a eu des histoires de Français retenus au Qatar. Des Américains. Il y a eu plusieurs nationalités concernées. Donc c'est pas exclusif. Les problèmes ne sont pas exclusivement pour les personnes qui ont une condition sociale basse, on va dire, pour les Philippines, parce qu'elles ont des emplois peu qualifiés.
Est-ce que ces travailleurs, quand ils arrivent dans ces pays du Golfe, est-ce qu'ils doivent laisser leur passeport, par exemple? Moi, j'ai entendu ça, c'est une réalité.
Tous, systématiquement. Et quand on ne laisse pas son passeport, on a quand même besoin d'un tampon de l'administration qatari pour nous permettre de sortir du pays. Donc ça revient au même en fait. Qu'on laisse son passeport ou pas, c'est exactement la même chose.
Mm-hmm. Ça veut dire qu'on laisse son passeport et qu'on est à peu près sûr de le retrouver quand on veut partir, ou ça se passe comment ?
On espère en tout cas. Bah, par exemple, pour vous parler de notre propre expérience, quand nous on était au Qatar, qu'on travaillait pour la télévision là-bas.
Pendant combien de temps, pardon ?
Presque 2 ans.
Ah oui, quand même.
Voilà. On nous a pas demandé de donner notre passeport, mais effectivement, si on voulait quitter le territoire, par exemple, pour rentrer en vacances, pour aller voir nos proches, il fallait l'autorisation de notre sponsor, et l'aéroport devait être prévenu en amont que l'on allait quitter le territoire, et à partir de ce moment-là, ils nous laissaient passer pour pouvoir prendre l'avion.
Donc vous avez vu, profiter, j'imagine, de ces 2 ans passés là-bas pour être confronté à des situations que vous décrivez dans ce livre, Journal d'une esclave au 21e siècle, qui est publié chez Do Éditions. Moi, j'aimerais vraiment comprendre ce que viennent chercher ces travailleurs qui viennent de différents pays, dans ces pays du Golfe. Des bons salaires, par exemple.
C'est un Eldorado.
Ouais.
Mais déjà, rien que l'idée qu'on en a, nous, en France, les Émirats, quand on pense Émirats Arabes Unis, quand on pense Qatar, c'est le pays de l'argent, du faste, c'est tout ça. Mais pour eux aussi. Mmh. Et pour eux, qu'on ait des conditions de vie généralement misérables dans leur pays, ça, c'est l'effet est décuplé.
C'est-à-dire une jeune femme qui vient des Philippines, par exemple, on lui promet un salaire qui est équivalent, je ne sais pas, à plusieurs années de...
10 fois supérieur à ce qu'elle peut gagner chez elle.
Combien, pardon ?
10 fois supérieur à ce qu'elle peut gagner chez elle.
D'accord.
Entre 500 et 1000 dollars, selon les contrats. Donc c'est ce à quoi elle s'attend.
Et ces populations sont-elles un minimum informées du risque qu'elles prennent en venant dans ce pays-là ? Ou est-ce qu'au contraire, ils arrivent dans un brouillard ?
Elles le savent forcément parce qu'il y a quand même des Philippines qui vivent des expériences atroces et qui peuvent finalement rentrer dans leur pays, donc elles communiquent évidemment et ça se sait. Mais je crois que certaines d'entre elles préfèrent prendre ce risque à la misère de Mani, par exemple.
C'est un peu leur dernière chance.
Ouais.
Vous racontez d'ailleurs le destin de Carla, c'est un personnage fictif finalement dans ce journal d'une esclave au 21e siècle, mais des Carla, il y en a plein, vous en avez rencontré lors de votre enquête sur les conditions de vie de ces Philippines dans les pays du Golfe Persique.
On a interviewé plusieurs personnes, plusieurs femmes de ménage, qui nous ont livré ces témoignages. On en a fait un roman pour pouvoir condenser en fait tous ces témoignages et faire une histoire qui se tienne à peu près. On a aussi parlé avec plusieurs employeurs. Et puis évidemment, on a lu toutes les statistiques, les rapports, tout ce qui concernait le sujet.
Parce que votre histoire, elle est bouleversante. C'est une femme qui s'installe, enfin qui part, qui quitte tout pour aller sa famille aux Philippines pour elle croit partir travailler une année pour amener de l'argent. Finalement, elle tombe dans une famille. Alors on ne sait pas exactement où ça se passe. C'est l'un des pays du Golfe Persique. Une famille qui va la maltraiter. Elle va être battue, elle va être violée. Elle manque de mourir. C'est un témoignage que vous avez souvent rencontré, ou ça c'est la pire des situations ?
C'est des choses qui arrivent malheureusement régulièrement dans ces pays-là. C'est des femmes qui sont confrontées à des situations épouvantables et qui malheureusement ont très très peu de recours pour se sauver de cette situation.
On va raconter ce qui est arrivé à ces femmes et ce qui leur arrive encore. Simplement, pour avoir une idée de proportion, sur 1000 femmes qui viennent travailler dans ce pays, combien se retrouvent en situation d'esclavage moderne ? C'est quoi ? C'est 10%, 20% ? C'est possible à chiffrer ou c'est
difficile ? Non, c'est impossible.
D'accord.
Les statistiques sont très très opaques, tout ça. Puisqu'en fait, pour une simple raison, c'est que bon nombre de ces femmes sont enfermées chez elles.
Bien sûr.
Elles n'ont aucun moyen de témoigner. Donc voilà, c'est à la louche.
Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que 90% par exemple de la population du Qatar est une population immigrée.
Ça veut dire 80% en effet, oui.
Ouais. C'est le cas aussi pour les Émirats aussi.
Alors oui. On va continuer de raconter la situation de ces travailleurs étrangers qui débarquent dans les pays du Golfe, et plus particulièrement la situation de ces jeunes femmes qui viennent pour travailler comme femmes de ménage et qui se retrouvent esclaves modernes, notamment le quotidien d'une jeune femme philippine et qui va se retrouver effectivement en situation de précarité et de danger dans la famille où elle travaille. Restez avec nous sur RTL.
RTL,
première radio de France.
RTL,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une immersion difficile que l'on vous propose ce soir, difficile mais nécessaire et passionnante. Sébastien Bouillet et Dimitri Sivieri, vous avez enquêté dans les pays du Golfe Persique, vous y avez habité, vous avez habité au Qatar pendant 2 ans, vous avez enquêté sur le travail forcé, ce qu'on appelle l'esclavage moderne. D'un côté, des pays qui ont un besoin colossal de main-d'œuvre, on en parlait, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, et de l'autre, des pays pauvres dont les habitants ont besoin d'argent, et parmi eux, les Philippines. Ce sont d'ailleurs majoritairement des femmes qui quittent le pays. Pour faire quoi, précisément ?
Pour offrir un avenir à leurs proches, premièrement, pour essayer de fuir la misère aussi, pour gagner mieux leur vie. C'est un échappatoire, et dans leur tête, elles se disent « je vais partir quelques années ». Je vais amasser un petit peu d'argent, je vais en envoyer régulièrement à ma famille pour qu'ils puissent mieux vivre. Et si tout se passe bien, j'essaierai même de payer des études à mes enfants. Et après un petit moment, une fois que j'aurai mis de l'argent de côté, je rentrerai chez moi et j'essaierai de reconstruire ma vie.
Et elle se retrouve dans quel type de famille ?
Alors, il y a tout. En fait, il y a différents types de contrats. Certaines sont pas une famille à l'autre. Tiens, je vais faire le ménage 4 heures chez l'un, 2 heures chez l'autre. Ça peut arriver. Et certaines sont... au sein d'une famille et vivent constamment, jour et nuit, dans une famille qui peut être qatari, mais qui est aussi bien souvent expatriée.
Mais elle les trouve comment, ces familles, ces femmes philippines qui quittent leur pays ? Il y a des agences aux Philippines qui les mettent en contact avec des familles du Golfe Persique ?
Alors oui, effectivement, il y a des agences de recrutement, en fait, qui sont en place là-bas aux Philippines, qui sont en place également au Qatar. Alors c'est elles qui s'occupent généralement, en fait, donc de recruter ces femmes pour pouvoir les envoyer dans les pays donc du Golfe Persique, pour prendre cet exemple. Donc généralement, pour vous raconter une petite anecdote pour que vous compreniez bien et vous compreniez un peu, quand Sébastien parlait de caste, notamment au Qatar, pendant nos recherches, moi j'ai discuté avec un de mes collègues qui travaillait donc justement à la télévision avec nous, et je lui ai posé la question au niveau du recrutement, comment ça se passait. Et il me dit, bah écoute, c'est pas compliqué, je suis avec ma femme dans une agence de recrutement, on m'a proposé un catalogue avec des photos et on m'a demandé de cocher ce qui m'intéressait.
C'est-à-dire qu'on choisit sur le physique ou sur les compétences ?
Sur le physique. Et un peu sur les compétences, mais c'est seulement physique pour eux. Et je lui dis, mais est-ce que tu peux développer un petit peu plus ? Et il me dit, bah, par exemple, il faut que tu saches qu'une femme philippine nous coûtera plus cher qu'une femme du Sri Lanka, qui, elle, coûtera par contre moins cher qu'une femme indienne. Donc c'est pour vous montrer vraiment dans l'état d'esprit, en fait, de ces pays-là, ce qui se passe, c'est que c'est terrible. On en va jusqu'à sélectionner quelqu'un de par son origine, quoi. C'est incroyable.
Mais est-ce qu'on les sélectionne aussi, ces femmes, en fonction de leur physique et de leur beauté, par exemple, parce qu'elles peuvent être une fantaisie ou je sais pas comment on dit.
Oui, une friandise, oui.
Une friandise, voilà, je cherchais pour le maître de maison, par exemple.
Ça peut l'être. Mais pour revenir à votre question précédente, c'est vrai qu'en fait, ce sont un peu des organismes mafieux. C'est-à-dire qu'aux Philippines, ces gens sont philippines, elles vont recruter et proposer au Qatar des femmes à disposition, et puis leur proposer des contrats avec des conditions qui paraissent acceptables.
Mais comment elles payent le voyage, ces femmes, par
exemple ? Les agences payent le voyage. Qatari et Philippines, ils se débrouillent entre eux. Ensuite, elles arrivent au Qatar.
Et elles doivent de l'argent, d'une certaine façon, si on leur a payé le voyage. Est-ce qu'elles commencent par travailler pour rembourser leur voyage ? Parce que ça existe, ça aussi, ou pas ?
C'est inclus dans le... Bien sûr, mais c'est inclus dans le paquet.
Le problème, c'est le billet retour. C'est aussi l'agence qui a le billet retour. Donc, elles ne peuvent pas décider quand elles repartent.
Ben voilà, en fait. Mais c'est ce qu'on raconte dans le livre. C'est vrai qu'après, elles sont tenues. C'est-à-dire que si elles ne remplissent pas leur contrat, on leur propose, voilà, on te paye le billet retour. Tu mènes ton contrat à bien. Et ensuite tu rentres et tout va bien, tu ne dois rien.
Donc il y a une apparence de légalité, il y a un contrat. Est-ce que la réalité et finalement le travail qu'elles font quand elles arrivent diffère radicalement de ce qu'on leur a promis ? Racontez-nous ça.
Bien sûr. Par exemple, on va leur dire, écoutez, vous allez partir donc au Qatar, vous allez vous occuper des enfants, donc vous allez être nourrice, pas de problème, elles arrivent là-bas, et finalement elles se rendent compte qu'elles doivent s'occuper d'une famille de 5-6 enfants, qu'elles doivent faire la cuisine, qu'elles doivent faire le ménage, et qu'une fois qu'elles ont fait toutes ces tâches-là, eh ben elles sont envoyées par exemple chez la belle famille, chez des amis, chez des cousins, pour faire le même travail. Donc le contrat qui est préétabli n'a plus aucun sens et ne se tient plus du tout, en fait.
Donc on arrive à des, je sais pas combien d'heures de travail par jour.
Alors on parle parfois de 100 heures de travail par semaine. Ce qui est énorme.
C'est gigantesque.
Gigantesque.
Ça fait entre 15 et 20 heures de travail par jour. Il n'y a pas de jour de repos ?
Non.
Parfois non.
Ça peut être 7 jours sur 7.
Alors sur le contrat d'origine, souvent il y a un jour de repos. Mais sur le contrat et qu'elle signe à l'arrivée, ce qui casse le premier contrat. Donc, une fois arrivée dans les pays du Golfe, il y a un jour de repos ou il n'y en a pas. Il peut, en fait, sur le contrat, peu importe, finalement, parce que c'est la réalité qui joue, c'est la réalité qui fait foi. Donc ensuite, la famille dispose des femmes comme elles l'entendent.
Et l'héroïne, entre guillemets, de votre roman journal d'une esclave au XXIe siècle aux éditions d'eau édition, quand elle se rend compte de ces conditions absolument abominables dans la famille, elle retourne à l'agence. Enfin, elle en parle, elle essaye de s'en sortir, de dénoncer ça. Qu'est-ce qu'on lui répond?
Eh ben justement,
c'est ce que vous avez fait,
Sébastien,
c'est
voilà, exactement. C'est malheureusement un système un peu mafieux où ils marchent entre guillemets entre eux. Donc elle est tout simplement piégée en fait. Elle est tout simplement piégée. Vu qu'en plus ils lui ont payé le billet pour venir justement au Qatar par exemple, ils lui paieront pas le billet de retour tant qu'elle aura pas travaillé, tout simplement.
Le quotidien d'une esclave moderne, c'est le récit bouleversant, révoltant que l'on continue de vous faire ce soir sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Chaque année, environ 100 000 femmes quittent leur pays, les Philippines, et leur famille, dans l'espoir de gagner de l'argent comme domestiques dans de riches familles du Golfe Persique. Elles imaginent rentrer un ou deux ans plus tard avec de l'argent, avec un pécule qui leur permettra de nourrir et de scolariser leurs enfants. Elles sont loin d'imaginer l'enfer qu'elles vont vivre. On a commencé à vous raconter comment ça se passe pour elles avec nos invités Sébastien Bouillet et Dimitri Sivieri. Et là, on va commencer à comprendre la violence qu'elles subissent. Elles sont corvéables à merci, vous venez de nous l'expliquer. Est-ce qu'elles sont battues, si elles résistent, ou même systématiquement? Comment ça se passe?
Il y a beaucoup de... On ne peut pas dire que dans la plupart des cas, elles soient battues. En revanche, on peut dire que ça arrive très fréquemment. Ça arrive assez fréquemment... Et puis ça peut aller très loin, puisqu'il suffit de regarder sur le web, on trouve des vidéos de femmes dont le visage est lacéré, qui sont en sang à l'article de la mort, parce qu'elles ont subi les coups de leurs employeurs.
Ces vidéos, ce sont ces femmes qui les publient comme des appels à l'aide, est-ce que vous le savez, ça?
Ce sont les proches.
Les proches de ces jeunes femmes?
C'est généralement anonyme, hein, parce que...
Pourquoi c'est anonyme?
C'est difficile d'en parler aux Philippines aussi, parce qu'en fait, toute cette masse de personnes, de Philippins qui vont travailler à l'étranger, ça constitue 12% du PIB des Philippines. Parce qu'en fait, ces familles envoient leur argent aux Philippines. Ensuite, ils font ça pour aider leur famille, donc ils envoient l'argent aux Philippines. Donc ça arrange bien, finalement, le gouvernement philippin. Et puis en plus, ça désengorge les villes dans lesquelles s'entassent des milliers de chômeurs. Enfin, aux Philippines, les gens dans les cimetières. Enfin, la situation est terrible. Hein.
Dimitri Sivieri.
Oui, et c'est pour continuer, Sébastien. En fait, c'est pour revenir aussi aux agences dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une vraie organisation. Il faut savoir qu'aussi aux Philippines, il y a des écoles qui forment les domestiques. C'est-à-dire, on leur apprend à s'adapter à la culture locale, on leur apprend à bien présenter. Tout ça, c'est des maillons qui s'enchaînent et qui forment une véritable organisation.
Donc, ce qu'on décrit là depuis tout à l'heure, c'est un piège. Très clairement, elles sont tombées dans un piège. Quand elles sont battues, frappées, telles que vous le décrivez, est-ce qu'elles sont soignées? Comment ça se passe? Elles vont à l'hôpital? On les aide quand même?
C'est compliqué. Ça arrive, on en a rencontré. Quelques-unes de ces Philippines qui sont à l'hôpital et qui effectivement bénéficient de soins. En revanche, c'est pas la majorité des cas, j'imagine, mais encore une fois, les chiffres sont très opaques.
C'est-à-dire de soins et on les renvoie dans ces familles qui les ont brutalisées.
Oui, ou alors ce sont des cliniques privées. Enfin, il y a toute une technique.
Payées par la famille, c'est ça? Qui
exactement,
est responsable des coûts?
Exactement. Et... Bah, chaque famille, ils savent bien que c'est pas bien ce qu'ils font, donc ils essaient d'étouffer l'affaire au maximum.
Parmi les jeunes femmes que vous avez rencontrées, certaines étaient-elles là dans ces pays du Golfe Persique, le Qatar ou d'autres, depuis longtemps, depuis combien d'années?
Ça pouvait être 2, 3, 5 ans, ça pouvait être très long.
Et 5 ans, c'est les femmes qui n'ont pas pu s'échapper avant, ou c'est leur projet de rester 5 ans? Parce que vous disiez qu'en général, elles partent. Si l'idée, c'est de partir un an, deux ans, et puis de retrouver sa famille. On peut pas, c'est dur de vivre,
si
évidemment.
Si vous voulez, des fois aussi, il faut aussi remarquer que des fois, ça va très bien se passer pendant 2 ans, 3 ans, tout va très bien aller, et du jour au lendemain, tout va partir à volo. Et à ce moment-là, elles n'ont plus de retour en arrière possible à part essayer de s'en sortir. Donc c'est pour ça que des fois, des femmes vont rester 5 ans dans le pays.
Ces femmes sont... Pardon, Sébastien?
Non, j'ajouterais qu'effectivement, parfois, ça se passe très bien, notamment avec les locaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas croire que parce que ça se passe là-bas, son site, ses bâtiments, les Qataris. Je connais beaucoup de Bédouins, enfin donc des Qataris, ce qu'on appelle les Khalidji, les habitants du Golfe, qui sont très respectueux de ces femmes-là.
Oui, on n'est pas en train de généraliser.
Non, je
pas oui, c'est important de le dire. C'est pas dans toutes les familles, et tous les habitants de ces pays du Golfe Persique, ouais. Évidemment, ne pratiquent pas ce qu'on va décrire ou
même
ce qu'on a décrit.
Même les Occidentaux. Alors, je dirais pas. On a pas de témoignages d'Occidentaux qui frappaient, qui torturaient ou qui violaient ces femmes-là. En revanche, ils profitent aussi d'une manœuvre pas chère. Et ça leur va très bien de payer 200 euros une femme qui habite chez eux par mois.
Bon, vous décriviez une situation où peut-être pendant un an, deux ans, ça se passe bien, et puis ça bascule. Est-ce que justement la question du sexe, du viol, fait basculer le destin de ces jeunes femmes le plus souvent ?
Je pense que quand on arrive au viol, c'est qu'en amont, il y a déjà eu, à mon avis... De gros problèmes pour arriver jusqu'au viol.
C'est pas l'élément déclencheur de l'enfer, d'une certaine façon.
Ça peut l'être, certainement, parfois, mais pas tout le temps. Non. Généralement, elles peuvent passer par des coups, par de la violence physique, et après, au sommet de tout ça, il y a le viol, effectivement.
Et le viol, il est puni par le système judiciaire de ces pays, du Qatar, par exemple, où vous avez vécu.
Oui, il est puni. Ce sont elles qui sont punies, en fait.
Pardon ?
Ce sont elles qui sont punies. Parce que le viol, les rapports sexuels hors mariage sont condamnés. Donc il y a beaucoup de cas de femmes qui ont été violées. Et ça arrive aussi pour les Occidentales. Hein. Ça arrive aussi des Françaises et des Anglaises.
Et c'est pas le père de famille ou l'homme de la famille
non.
Parce que c'est un rapport sexuel hors mariage.
Oui.
Il est marié, mais il couche avec une autre femme quand même.
Vous avez raison.
Ça marche pas comme ça.
Sauf que quand quelqu'un est très haut placé, il passe un peu entre les gouttes.
Comment, en 2015, on peut tolérer ces abus, ces tortures ? Est-ce qu'il y a des solutions, des évolutions, peut-être un espoir pour ces jeunes femmes ? On répond à toutes ces questions dans un instant sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On s'est mis dans la peau ce soir des esclaves modernes. Ils sont ouvriers, domestiques, ils sont des millions à avoir émigré dans les pays du Golfe Persique pour s'offrir une vie meilleure. Sébastien Bouillet et Dimitri Siviri, vous qui avez enquêté sur les conditions, ces conditions de travail. Alors parfois ce sont de bonnes conditions, parfois ce sont des conditions de travail inhumaines. Et c'est ce dont on parle et ce dont parle votre journal d'une esclave au 21e siècle aux éditions Do Édition. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces pays du Golfe Persique pour améliorer le sort de leurs immigrés ?
Oui, bien évidemment. Il faut savoir, par exemple, que la Cheikh Hamoza, donc, qui est une des femmes de l'ancien émir Cheikh Hamad Al Thani, a mis en place...
Dans quel pays ?
Au Qatar.
Au Qatar.
Bien sûr. A mis en place auprès de la Qatar Foundation, en fait, un espace pour recruter ces femmes-là. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience de ces pays, surtout quand il y a des dossiers qui sortent, vous imaginez bien, dans les médias et que ça fait le tour du monde, ces pays-là sont montrés du doigt et n'ont d'autre solution que d'essayer de réagir.
J'ai lu que le ministère au Qatar, le ministère a créé une ligne téléphonique pour que les employés puissent dénoncer les abus de leur patron. Ça fonctionne vraiment, ça ?
C'est un peu tôt pour le dire.
C'est quel ministère d'ailleurs, vous savez ou pas ?
Ministère de l'Intérieur.
Ministère de l'Intérieur ?
Je crois, je ne l'affirmerai pas. Hein. Mais en fait, les retombées de toutes ces lois, on ne peut pas encore en voir vraiment le bout parce que suite aussi aux maltraitances des travailleurs sur les chantiers pour la Coupe du Monde, le Qatar a mis en place un certain nombre de dispositifs. Donc un contrôle des conditions de vie, un contrôle des conditions de travail, beaucoup de choses comme ça. Simplement au Qatar, ou aux Émirats, ou enfin dans de nombreux pays du Golfe, les femmes sont enfermées dans les maisons, donc c'est pas facile de le voir. Et quand on est invité dans une riche famille, on est accueilli dans le majlis. C'est une pièce qui est à l'extérieur de la maison, donc on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est très difficile de vous voir témoigner.
Donc ça veut dire que c'est encore plus difficile pour ces jeunes femmes que pour les ouvriers qui travaillent sur les chantiers de ces pays qui sont des pays à forte croissance et à fort développement, c'est ça, c'est ce que
ben
vous
on les
expliquez.
Voit pas.
On ne voit pas ces femmes. Alors que les ouvriers À la rigueur, il peut y avoir une pression internationale peut-être un peu plus forte qui s'exerce sur ces chantiers, c'est ça ? C'est ce qui se passe
exactement
en ce moment ?
Oui, oui.
Alors, on fait pas d'amalgame encore une fois. Témoignage d'un des auditeurs d'RTL, Olivier, qui nous envoie ce témoignage du Haut-Rhin. Et il nous dit « Mon fils vit aux Émirats Arabes Unis. Il a une maid, une femme de ménage, qu'il paye 400 euros par mois plus un jour de congé. Elle a son passeport avec elle, on lui paye ses voyages. » Et voilà, le témoignage d'Olivier, c'est de nous dire « Dans certains cas, cela se passe bien, il n'y a pas d'esclavagisme. » Vous êtes d'accord, c'est
bien sûr,
bien
sûr. Mais pour prendre mon cas personnel, moi aussi, il m'est arrivé d'employer quelqu'un pour faire le ménage. Alors, je le payais un salaire comme ce qu'on peut payer un salaire en France. Et puis, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait des familles qui ont un respect de la vie humaine, qui respectent ces femmes-là ou ces hommes-là qui font le ménage aussi parfois. Mmh. Et puis qu'il leur offre un salaire décent et des conditions de travail décentes. Mmh.
Donc merci à Olivier pour ce témoignage, c'était important de le signaler. Vous avez évoqué la Coupe du Monde de football qui aura lieu en 2022 au Qatar. En ce moment, il y a la Coupe du Monde de handball. Donc c'est un pays qui a cherché cette exposition, mais qui est sous le regard du monde. Ça veut dire que ces projets, ça va continuer l'afflux d'immigrés dans ces pays. On peut le prévoir là dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Alors bien évidemment, oui, ça va augmenter, notamment vous parliez de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, mm-hmm. avec la construction de tous ces stades et de toutes les infrastructures qu'il faut mettre en place, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire, donc cette main-d'œuvre qui va arriver donc de l'étranger va être décuplée, bien évidemment. Et là, bien évidemment, par contre, ils vont être présents aux yeux de tout le monde. La FIFA, par exemple, interdit ces pratiques, donc ils vont être surveillés par la FIFA. Amnesty International a fait des rapports sur le sujet aussi, donc ils vont être observés par des structures comme celle-ci. Ils vont pas avoir le choix aussi à un moment donné de s'adapter. En espérant que toutes ces conditions s'améliorent au fur et à mesure.
On peut évaluer le nombre de personnes qui vont arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années.
Ce serait un million.
Ouais, certains parlent d'un million.
Mais on verra. Il y a aussi cette course au développement. Tous ces pays, pour parler du Koweït, des Émirats Arabes Unis ou du Qatar, se concurrencent. Il y a vraiment une course à la concurrence. Il faut faire les plus gros, les plus hautes tours, les plus belles. Il faut vraiment se faire voir. En plus, le pays a créé un peu son identité comme ça. Mmh. C'est-à-dire que le Qatar, personne ne savait où situer sur une carte.
C'est vrai.
Et c'est pour ça qu'ils ont commencé cette course au développement. Ils savent également que les hydrocarbures ne sont pas éternels. Donc il faut diversifier leur économie.
On parlait des droits, entre guillemets, des travailleurs immigrés. C'est le califat au Qatar qui régit la vie de tous ces étrangers qui viennent travailler dans ce pays. C'est quoi le califat ? Qu'est-ce qu'il dit,
alors,
ce texte ?
La kafala.
La kafala, pardon. Excusez-moi.
Oui, alors en fait, la kafala, si vous voulez, c'est que chaque travailleur, peu importe son origine, hein, bien évidemment, et peu importe son travail, doit avoir un sponsor. D'accord. Donc ce sponsor, c'est quelqu'un qui se porte garant pour lui. C'est-à-dire que il ne peut pas, par exemple, changer de travail sans l'autorisation de ce sponsor. Il ne peut pas obtenir un permis de conduire sans l'autorisation de son sponsor.
Mais c'est le patron, le sponsor ?
C'est le patron, exact. Généralement, c'est le patron, bien évidemment.
C'est un local.
Ils peuvent pas louer un logement.
Le terme, je vous interromps, pardon, le terme sponsor, parce que moi j'entends sponsor, je pense
tuteur, si vous préférez.
Je pense au sport, voilà, c'est
plutôt une sorte de tuteur.
Ouais, d'accord.
On peut appeler ça comme ça, qui en fait régit tous les actes indirectement de l'employé, entre guillemets.
Alors c'est un peu étrange quand même.
Alors ça paraît liberticide et ça l'est.
Ouais. Effectivement.
Simplement, il faut quand même préciser une chose, c'est que le Qatar est un tout petit pays, qu'il y a, comme vous l'avez dit, plus de 80% d'immigrés. Et que ils n'ont pas envie de se faire envahir, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie déjà qu'on s'implante, que nous, occidentaux, entre autres, on s'implante et qu'on crée des entreprises comme des champignons et donc, en fait, qu'on s'approprie le pays. Donc c'est pour ça déjà que 51% de départ d'une société au Qatar sera détenu par un Qatari.
Systématiquement.
Systématiquement. Minimum. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des cas de vol des personnes qui sont arrivées au Qatar et qui ont... pas piller le pays, ce serait un peu le terme un peu exagéré, mais en fait qui sont arrivés dans de grosses structures et qui ont volé du matériel en grosse quantité.
Mais ça c'était quand ? C'était dans les années 50, 60,
non,
la première vague d'immigration, ou c'est récent ?
C'était il y a 3 ou 4 ans. Et donc du coup pour la kafala est maintenue aussi pour se prémunir de tout ça.
On parlait des victimes, des domestiques, des ouvriers, mais il y a aussi dans les pays du Golfe Persique des otages économiques. C'est quoi ça ?
Alors c'est complètement lié à la kafala. C'est-à-dire que comme on ne peut pas sortir librement du pays, qu'il faut l'autorisation de son sponsor pour sortir du pays. Si le business se passe mal, c'est fini, on ne sortira pas du pays. Si on porte plainte, c'est arrivé à des Français qui ont porté plainte parce qu'ils n'étaient pas payés pendant 6 mois, par exemple, et des Français qui étaient très bien payés, très bonnes conditions, ont été retenus jusqu'à temps qu'ils retirent leur plainte. C'est aussi arrivé pour quelqu'un qui avait une entreprise et en fait qui a fait des chèques en blanc, ce qui est interdit au Qatar. Donc après,
en France aussi. Hein.
Sauf qu'en France, on risque moins.
Oui.
Et j'aimerais juste parler un petit peu de cette histoire parce qu'elle est intéressante. Cet homme est parti, il s'appelle Jean-Pierre Maronju. Il est parti en kayak pour rejoindre le Bahreïn et là pour rejoindre l'ambassade de France. L'ambassade de France a remis cette personne à l'ambassade de France qatari, et l'ambassade de France qatari l'a remise aux autorités qatari. Donc j'ai trouvé ça très moyen de la part de la France d'avoir participé en fait à son emprisonnement.
Et bon, on va terminer là-dessus.
Merci infiniment Sébastien Bouillet et Dimitri Sivieri. Vous publiez Journal d'une esclave au 21e siècle. C'est chez Do Édition. Merci à vous.
Merci Sidonie. On vous laisse filer comme tous les mercredis à W9. À la télé dans un instant, Géraldine Danon en direct de l'île d'Haïti avec Philippe Poupon et leurs enfants sur le bateau. Fleur Austral RTL bouge pour la planète aujourd'hui.
Vous écoutez RTL.